quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds. Vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2h, je suis chômeur, je suis pointé.
Bienvenue sur le Canu Info du lundi 102.2, la plus rebelle des radios.
Alors aujourd'hui, on va vous parler à l'international de Trump et de la Corée du Nord, des manifs en Roumanie et de la poursuite des violences en Birmanie contre les Rohingyas. Également, au national, on vous parlera des manifestations à Bobigny et de l'inénarrable Emmanuel Macron, ainsi que d'une tentative mainstream de nous faire croire que la presse ne ment pas. Au local, on vous parlera du rassemblement violences policières samedi à Vénissieux, ainsi que d'un rassemblement qui a eu lieu dimanche à Vénissieux, et de l'espionnage des politiques, soi-disant par les Russes et les Ricains. On finira par le traditionnel agenda, mais avant, il y aura un dossier sur le collectif
des étudiants étrangers de Lyon.
Alors on va démarrer, oui, donc par l'international. Trump un jour, Trump toujours. Donc comme d'habitude, on a quelques belles sorties de la part de notre cher et grand président du monde. Trump cette semaine a continué à faire des conneries un peu partout, et on peut pour faire un petit retour sur sa semaine. Mercredi dernier, en fait, ce qui a été dénoncé après, c'est qu'il a expliqué qu'il se fichait un peu du briefing de la part des services secrets, et qui est un truc qui arrive tous les jours et qui est quand même un peu censé être important, mais qui préférait tweeter sur, je cite, « Ma fille Ivanka était traitée de manière si injuste par Nordstrom, c'est une personne incroyable qui me pousse toujours à faire le bon choix, terrible. » Donc pour en clair, c'est en fait cette marque Nordstrom, qui est une marque un peu répandue dans toutes les États-Unis et au Canada, a simplement décidé de supprimer la ligne de vêtements faite par sa fille, parce que personne ne voulait l'acheter, sûrement parce que c'est très moche. Enfin, dans tous les cas, ça ne se vendait pas, donc ils ont décidé de le supprimer. Choix économique qui a été fait plusieurs mois avant l'élection, mais sauf que ce choix arrive après l'élection, une fois que Trump est président, et ce Trump se permet en fait de dénoncer ça publiquement. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière, en fait, c'est que Nordstrom en fait, avait surtout pris position contre en fait le décret de Trump sur l'immigration, et avait promis d'aider tous ses employés qui avaient des problèmes et des papiers à les soutenir publiquement. Ce qu'il faut voir, c'est que aussi que un peu plus tard, Kellyanne Conway, une proche conseillère du président américain, a balancé depuis la Maison Blanche sur la chaîne Fox News: allez acheter les produits d'Ivanka, je déteste faire les courses, mais je vais aller acheter ces produits aujourd'hui, c'est juste une ligne magnifique, je possède moi-même des produits, je vais faire de la publicité gratuite, allez tous en acheter aujourd'hui, vous pourrez même en trouver en ligne. Ce qui est en fait extrêmement trash en fait dans toute cette affaire, c'est que Trump a donc utilisé publiquement l'ensemble des médias, notamment en fait le Twitter de la Maison Blanche, et sa conseillère a aussi utilisé l'image de la Maison Blanche pour en fait faire la promotion d'une marque de vêtements de sa fille. Donc clairement, Trump en fait a mis moins de quand même de 3 semaines, ce qui est, je pense, un record dans l'histoire des États-Unis, pour mettre au service en fait de ses intérêts personnels et économiques l'ensemble en fait du système et de la pseudo-démocratie américaine. Dans les autres mauvaises blagues de la semaine, le Pentagone a aussi confirmé qu'il allait louer, ce qui lui coûterait une véritable fortune, un espace dans la Trump Tower, où Trump en fait réside, pour pouvoir assurer sa sécurité. Donc ils ont prévu de louer au même président un étage entier de sa tour pour pouvoir assurer sa propre sécurité. Alors qu'il possède la Maison Blanche et qu'il a le droit de squatter.
Donc c'est la White Trump Tower.
C'est ça, on va pouvoir la rebaptiser, ça peut être très drôle. Et enfin, dans les autres polémiques de la semaine, Donald Trump en fait a carrément interdit la sortie du livre de sa deuxième épouse qui parlait de leur mariage. Et donc on peut imaginer qu'elle devait balancer deux ou trois petits dossiers croustillants et qu'il a juste dit refuser de cet ouvrage sort, tout simplement.
Alors, loin des fantaisies de Trump, passons outre-Atlantique et revenons en Europe avec les manifestations en Roumanie. Le Premier ministre Sorin Grindeanu a annoncé l'abrogation du décret d'assouplissement de la législation anticorruption le 4 février. Alors, pour rappel, depuis la publication de ce décret d'urgence dans la nuit du 31 janvier, des centaines de milliers de personnes manifestent chaque soir dans les principales villes du pays. Donc, malgré son retrait dimanche dernier, les Roumains restent mobilisés jusqu'à son retrait total par le Parlement roumain. Donc, jeudi 9 février, c'était le tour du ministre de la Justice, Florin Iordache, qui annonçait sa démission. Donc, il faut dire que c'est lui qui avait écrit le décret. Cette démission est la seconde au sein du gouvernement, après celle de Florin Jianou, ministre des Milieux d'Affaires, qui avait démissionné en signe de protestation contre le décret et le gouvernement. Alors, ce n'est pas fini. Mercredi dernier, le Parlement a voté contre une motion de censure déposée par l'opposition au parti social-démocrate PSD, qui aurait été, si cette motion avait été votée, l'effondrement tout entier du gouvernement de Sorin Grindeanu. Mais le PSD est majoritaire au Parlement, ce qui a empêché cela. Donc ce mouvement est sans précédent, c'est un signe fort pour les Roumains qui voient en cette mobilisation le signe d'une union forte contre la classe politique du pays qui n'a jamais cessé ses fraudes électorales, les emplois fictifs et autres actes de corruption qui gangrènent le pays depuis bien avant la chute de Ceaușescu. Les manifestants comptent bien être encore dans les rues pour signifier que l'annulation du décret ne suffit pas. Hier encore, il y avait 30 000 personnes dans les rues de Bucarest et 10 000 à Cluj-Napoca. Voilà.
Et donc à Madagascar.
Eh ben, c'était pas à Madagascar, mais on peut aller à Madagascar, mais il n'y a pas de problème. Donc allons à Madagascar, puisque à Madagascar, il y a des litiges fonciers en ce moment et des révoltes paysannes depuis quelques temps déjà. Ces paysans, effectivement, refusent leur expropriation par l'État malgache au profit de multinationales minières, principalement chinoises, mais pas uniquement chinoises. Et ces révoltes, elles ont commencé début 2016 et elles continuent à se répandre sur tout le territoire. Alors, petite contextualisation, en 2005, une réforme a donné des droits fonciers sur les terres qu'exploitaient ces paysans depuis des générations, mais très peu ont fait les démarches par manque d'informations. Alors, rappelons, ou pour information, 75% de la population vit de l'agriculture à Madagascar. Et depuis quelques années, notamment depuis l'arrivée de l'actuelle présidence en 2013 au pouvoir, du jour au lendemain, le même scénario se répète dans beaucoup trop de terres paysannes malgaches et beaucoup trop régulièrement et à très grande échelle. C'est-à-dire que des communautés paysannes tout entières se retrouvent totalement dépossédés de leurs terres par de riches particuliers et surtout par des grandes firmes transnationales, en majorité chinoises, provoquant des déplacements forcés de communautés et plongeant dans la pauvreté et expulsant de leurs terres de très nombreux paysans. Mais toutes ces communautés paysannes ne se laissent pas faire. Dès 2016 donc, les habitants de cette communauté, donc Soama Manina, se rebiffent contre une entreprise minière chinoise qui a obtenu un permis d'exploitation sur une surface de 7500 hectares. Ces derniers, donc les habitants, ont décidé de ne pas se laisser faire, de bloquer pendant plusieurs mois la route nationale qui traverse leurs terres, jour comme nuit. La fronde de ces paysans a fini par devenir le sujet principal de l'actualité nationale en septembre 2016, quand les forces de l'ordre ont violemment réprimé une manifestation et arrêté plusieurs habitants qui ont été placés quand même pendant plusieurs mois en détention, puis jugés et finalement condamnés à un an de prison avec sursis pour participation et organisation de manifestations non autorisées. Tiens, ça rappelle quelque chose. La lutte a fini par être victorieuse.
Bravo.
Puisque, bravo à eux, cette entreprise chinoise a renoncé à exploiter son gisement d'or et a quitté les lieux, tout en conservant néanmoins son permis minier. On ne sait jamais, peut-être qu'à un autre moment, il reviendrait. Mais depuis quelques mois, de nouveaux permis miniers ont été accordés en très grand nombre. Le gouvernement se justifiant en utilisant l'argument financier. Les Chinois ont beaucoup de liquidités et ils offrent des facilités de prêt. Et nous, l'État malgache, on a un gros déficit. Et donc c'est normal d'exproprier les paysans et de donner tout ça à des grandes firmes transnationales. Les paysans ne se laissent pas faire et ils prennent l'exemple de la fronde de Soama Manina. Plusieurs communautés sont entrées en résistance et le sont toujours actuellement. Et ils ont bien raison, car d'après le CIF, Solidarité des intervenants sur le foncier, une plateforme d'organisation de la société civile, au rythme où ça va, au rythme où les expropriations vont, les Malgaches seraient dépossédés de leurs terres en 10 ans. Donc, vive la lutte des paysans malgaches, pardon. Et si jamais d'ailleurs vous avez des informations sur comment on pourrait organiser la solidarité financière, si vous écoutez la radio, n'hésitez pas à envoyer un mail et donner des informations là-dessus, parce que ils méritent de recevoir du pognon pour continuer
leur lutte.
Exactement.
Et on part en Birmanie ou en Myanmar, l'appellation officielle du pays. Ah, t'avais un truc à finir peut-être. Non, je sais pas. Donc on vient en Birmanie où on va parler de la persécution des Rohingyas qui risque de dégénérer en déportation de dizaines de milliers de personnes sur une île déserte et insalubre dans le golfe du Bengale. C'est le projet en effet du gouvernement bangladais, déplacer les Rohingyas qui fuient par milliers l'état d'Arakan dans l'ouest birman, sur cette île Tengarchar, une île déserte qui s'est formée il y a une dizaine d'années par les sédiments de la rivière, qui est sujette au cyclone, qui est inondée une bonne partie de l'année, qui comprend aucune infrastructure, qui est invivable. Quoi. Donc pour rappel, les Rohingyas, ce sont les musulmans apatrides de Birmanie, pays majoritairement bouddhiste et animiste, qui reconnaît dans son peuple plus de 130 minorités sur son territoire, mais qui ne reconnaît plus les Rohingyas depuis 1982, qui sont considérés comme des immigrés illégaux bangladais. Eux, ils se revendiquent comme descendants de commerçants arabes, turcs, mongols ou même portugais qui remontent au XVe siècle, ce que confirment d'ailleurs certains historiens. Et beaucoup aussi descendent de l'immigration bangladaise, encouragée par l'administration coloniale britannique au XVIIIe pour travailler dans les exploitations agricoles. D'ailleurs, les Rohingyas ont toujours été embrigadés dans les forces britanniques dans tous les affrontements entre les Anglais et les indépendantistes birmans. Et donc, bien sûr, ils sont toujours considérés comme des traîtres, ils l'ont toujours été, et ils ne sont pas très aimés. Quoi. Bon, ça évoque quand même la responsabilité de l'occupant dans les tensions ethniques des pays occupés. Bref, toujours est-il qu'ils vivent dans l'état d'Arakan depuis plusieurs générations et que ça fait 35 ans qu'ils n'ont plus de nationalité, donc plus d'accès au marché du travail, aux services publics, ni hôpitaux, ni écoles, etc. Bon, entre l'armée, la police birmane, l'hostilité des gens à leur égard, les groupes de moines bouddhistes qui font barrage aux convois humanitaires qui leur sont destinés, l'ONU considère les Rohingyas comme la minorité ethnique la plus persécutée au monde. Et depuis l'automne dernier, on assiste à des vagues de violence sans précédent. Suite à un attentat en octobre par des musulmans, semble-t-il, l'armée birmane a lancé une offensive brutale sur les Rohingyas. Human Rights Watch et un rapport des Nations Unies sur un éventuel génocide font état de viols et autres violences sexuelles, de meurtres, de tortures auxquelles ont pris part des membres de l'armée, de la police et des villageois birmans. Donc résultat, les Rohingyas fuient cette zone d'Arakan qui est entièrement gérée par l'armée, qui est fermée aux assistances humanitaires et au gouvernement civil birman. On compte environ 70 000 réfugiés au Bangladesh. Et que fait Madame Aung San Suu Kyi, la fameuse Nobel de la paix, qui n'est pas juridiquement chef de gouvernement, mais qui l'est de facto? elle compose avec une deuxième force au gouvernement, l'armée birmane, qui reste très puissante dans ce pays, sachant que les militaires détiennent trois ministères clés, ministère de l'Intérieur, de la Défense et ministère des Frontières, et un quart du Parlement. Du coup, la dame birmane, malgré les pressions internationales, elle ferme les yeux. Et en attendant, les campements des Rohingyas, ils font tâche dans les villes portuaires du Bangladesh, qui voudraient bien faire de Cox Bazar une belle station balnéaire. Et du coup, ils risquent d'être bientôt déplacés sur Tengachar, un bout de terre insalubre, invivable, baptisé île des pirates, avant d'être envoyé en Birmanie.
Et maintenant, on va au Mexique, plus précisément dans le Michoacán. Donc, le 5 février, 5 membres de la police communautaire du sud du Michoacán avaient été enlevés par des membres de la marine. Donc, pour contextualiser un peu, je suis pas en train de m'émouvoir de l'enlèvement de. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de.
On a le plaisir d'accueillir Jeanne Moreau pour une chronique sur le Michoacán.
Bonjour, Jeanne.
Du coup, pour contextualiser, je disais, je m'émeux pas du fait qu'on enlève des keufs, mais en fait, le Michoacán, c'est une région du Mexique où les cartels sont extrêmement puissants et leurs activités criminelles dépassent largement le seul trafic de drogue. Ils volent les terres, rackettent les habitants, etc. Du coup, depuis quelques années, les communautés indigènes ont décidé de s'organiser face au crime, mais aussi à l'État, qui a tout un tas de relais, en fait, des cartels au sein de la police et aussi au sein des élus. Donc ils ont décidé de prendre les armes pour essayer de chasser les narcos de leur territoire. Donc c'est ce qu'on appelle des groupes d'autodéfense ou des polices communautaires. Et dans certains cas, ces groupes ont été particulièrement efficaces. Ils ont vraiment réussi à repousser très loin les cartels et à reprendre en main leur richesse, leur territoire. Alors, dans le sud du Michoacán, la situation, elle reste extrêmement tendue. Et donc, ça fait quelques mois que les cartels mènent de nouveau une offensive assez importante, notamment les Chevaliers Templiers, qui est l'organisation la plus importante dans le Michoacán. Et donc là, le dimanche 5 février, il y a 5 membres de ces autodéfenses qui ont été capturés. Par en fait des membres de l'armée, par la marine, qui ont ensuite donné à un petit groupe des chevaliers templiers les 5 membres des autodéfenses. Ce qui réclamait à la police communautaire, c'était le départ des autodéfenses d'un barrage qui empêche en fait les narcos de faire circuler leurs marchandises depuis leur façade atlantique, donc depuis un port qui se trouve vraiment tout au sud du Michoacán. Donc c'est une route commerciale super importante pour le trafic. Et du coup, ils ont menacé de tuer les cinq policiers si les autodéfenses accédaient pas à leurs revendications. Les groupes d'autodéfense ont passé au chantage. Ils ont mené une offensive militaire pour retrouver leurs camarades, donc dans les villages qui sont encore aux mains du cartel. Et ils ont réussi à les libérer le 8 février. Donc je rappelle que depuis le début, je pense que personne ne le savait, mais depuis le début février, dans le Michoacán, donc là on est en 13 jours, il y a eu plus de 50 personnes qui ont été assassinées. C'est énorme. L'État continue de fermer les yeux sur les nombreuses complicités qui existent en son sein, probablement parce qu'en fait, la manne financière que représente à la fois le trafic de stupéfiants, mais aussi l'ensemble des activités que développent le crime organisé sur le territoire mexicain, empêche complètement l'État de se défaire de cette manne financière-là dont il a besoin pour se pérenniser lui-même.
Un État criminel.
Exactement. Donc du coup, nous, on est toujours du côté de ceux qui se battent contre ceux qui les exploitent et en l'occurrence, en plus de les exploiter, les tuent, les séquestrent et les enlèvent un peu tous les jours. Donc voilà, on souhaite beaucoup de courage aux autodéfenses
Alors, il faut oublier que ça peut arriver à tout le monde. Et dans le chapitre justement de l'État qui perd le contrôle de ses forces policières, eh bien, on va vous faire un petit compte rendu de la justice qui commence à trouver un chemin à Bobigny.
Merci pour cette transition, c'est la merde maintenant. Donc, Bobigny, donc, où se sont rassemblées 2000 personnes samedi contre les violences policières. Malgré des appels sur Internet pour éviter tout débordement, la colère face au viol de Théo par les policiers a été plus forte. Projectiles lancés sur la police, poubelles brûlées, il n'en faut pas plus à la police pour répliquer à l'aide des moyens, hélas traditionnels, gaz, flashball. Du coup, ça s'emballe, émeute, véhicule incendié et bilan, 37 interpellés gardés à vue et de nombreux blessés parmi les manifestants. Mais les échauffourées ont tout de même donné lieu à quelques épisodes cocasses. On vous délivre un petit best-of.
Alors, une voiture de police qui fait une marche arrière sur plusieurs centaines de mètres. Alors, la scène, elle doit se retrouver face à une bande de jeunes qui décident de lui foncer dessus. Et cette voiture de flic a pas le temps de faire demi-tour. Et donc, cette scène est quand même magnifique. C'est probablement la plus belle marche arrière de police depuis plusieurs années qu'on puisse voir sur Internet. Donc, on vous conseille cette vidéo. Et ils doivent bien flipper à l'intérieur de cette voiture. Alors, non pas qu'on cautionne le fait de faire flipper des flics, bien sûr, mais bon, c'est quand
ah
même...
Non.
Non, c'est très mal, il ne faut pas les faire flipper les policiers. Ils sont trop gentils.
Après, ils font des cauchemars, ils se suicident.
Il y a aussi un doyen des manifestants.
Ah, le doyen des manifestants, probablement le plus vieux manifestant de cette manif, qui décide de prendre un bon gros caletard. Le plus vieil émeutier. Et qui décide de le jeter de toutes ses forces sur les flics. Et là, il se fait sauter dessus par plein de jeunes. Ouais, tout, t'es trop notre pote. Et finalement, les vieux aussi peuvent jeter des cailloux, quoi. Il n'y a pas de raison.
Bon, on va terminer sur la fameuse bavure de la presse, parce qu'il n'y a pas que les policiers qui font des bavures, il y a aussi leur commandant à la préfecture qui prétendra il y a un communiqué de presse, des effectifs de la police ont dû intervenir pour porter secours à une jeune enfant se trouvant dans un véhicule en feu. Donc en vrai, ils ont tout faux, puisque suite à ce communiqué qui fait les choux gras de la presse mainstream et pendant le temps du démenti. Et interviendra donc un jeune manifestant, Emmanuel Toula, qui s'exprime sur les réseaux sociaux en expliquant la vraie histoire, c'est-à-dire que c'est lui, un jeune de 16 ans, qui a récupéré la gamine. Il n'y avait pas de policiers aux alentours. Le véhicule n'était pas en feu, mais la gamine était effectivement en danger. Il l'a prise dans ses bras. Il s'est fait gazer par les flics en sortant de la voiture. Il s'est fait gazer, il cherchait la mère et il s'est fait refait gazer. Et puis les flics ne voulaient pas le laisser passer jusqu'au moment où en fait les flics ont récupéré la gamine de force. Et là, ils se sont fait leur autopromotion. Bien entendu, en fait, il y a Paris Lutte a dévoilé cette information en premier. Tous les journaux étaient méfiants, en disant non, on ne sait pas. Jusqu'au moment où Bondy Blog, un magazine dépendant de Libération, a fait une interview de ce jeune manifestant Emmanuel Toula. Et là, oulala, démenti, mais à coup de pas de la pref, qui déclare « Nous n'avons jamais dit que c'était des policiers qui avaient sauvé la fillette. La phrase a peut-être été mal tournée dans la précipitation. » Donc c'est le truc des flics, ça, une matraque introduite peut-être malencontreusement dans la précipitation, c'est toujours la même chose, voilà.
Et encore une nouvelle marche arrière.
Et une belle.
Alors dans le genre de la marche arrière, il y a une fuite en avant. Et même peut-être plus loin.
Dans c'est aussi en marche, hein, voilà, arrière.
En marche, à l'infini et au-delà. Effectivement, dans le week-end, un nouveau super-héros a fait son apparition sur la scène politique française. Un croisement, en termes de super-héros, digne des meilleurs character designers de DC Comics ou de Marvel. Un mélange entre Jésus-Christ et Emmanuel Macron. Alors ce super-héros, il est le fruit d'une rencontre, comme tous les super-héros. Un peu comme dans les voyages interstellaires où les héros en devenir sont irradiés et développent des super-powers. Donc ce nouveau super sauveur de la France, il est issu d'une manifestation cosmique, en l'occurrence la collision hyper-mystique entre Emmanuel et Macron. Déjà, son prénom, celui du Messie, Emmanuel, don de Dieu en hébreu, a dû lui monter au casque qu'il a très gros. Mais surtout, il nous confirme que la dimension, sa dimension christique, il ne la revendique ni la renie. Elle est là, immanente, transcendante, telle une prophétie de série B. Macron est le Christ sauveur de la France. Et pour obtenir l'Oscar interbiblique de l'enfumage, Macron rajoute, abondamment relayé par la presse mainstream, que, accrochez-vous, ignare, c'est une erreur que de penser que le programme est au cœur d'une campagne politique, car la politique, c'est mystique, abracadabra. Cependant, nous autres vermisseaux indignes de l'onction christique, nous ne trouvons pas M. Macron très original, et même que ses recettes sont, en définitive, ni plus ni moins que celle de la vieille bourgeoisie française matinée de chaud à l'américaine. Car ces replaces nous apprennent que les vieilles ficelles du bonapartisme sont recyclées par les énarques high-tech, nourries au sein de la gauche méritocratique et au sein droit de tonton l'américain. Et oui, Super Macron, fidèle à l'adage « plus c'est gros, plus ça passe », se fait homme providentiel, sauveur de la nation, anti-système et blablabla. Mais la réalité, c'est qu'un programme existe, même si ce n'est pas le sien, hein, c'est celui de la French American Foundation, la FAF, et il est clairement lisible dans ses propos, faussement inspiré. C'est peut-être parce que justement ce n'est pas son programme, mais bien celui de la classe bourgeoise, capitaliste, américano-inféodée, qu'il préfère ne pas s'attarder dessus. Alors, ces replaces, hein, avec ses visions, ce projet, il faut y voir justement le champ sémantique du management, où les objectifs par projet, les cultures par projet qui font école dans l'éducation nationale, dans toutes les entreprises, eh bien c'est un discours de l'entreprise, et c'est de faire justement de l'État une entreprise. Donc c'est le discours de l'ultra-libéralisation de l'économie, de l'auto-entrepreneuriat, où toutes les solidarités historiques, géographiques, sociales sont atomisées, et où chaque individu se retrouve être un auto-entrepreneur, c'est-à-dire l'unité incompressible et indivisible d'un système cybernétique, capitaliste, où chacun est face à la machine sans pouvoir construire aucune solidarité. Mais bon, pas d'inquiétude, puisque dans ce désert humain, dans ce désert social, dans ce désert qui croît, un prophète s'est levé. Super Macron.
Ah, on a hâte.
Wow.
On continue avec l'application et la page internet Décodex. Donc c'est, vous en avez peut-être entendu parler, c'est Le Monde qui, en partenariat avec Google, part en guerre contre les fake news. Donc les fake news, c'est ces informations fausses qui abondent dans les médias alternatifs notamment. Mais donc Le Monde va en guerre contre tout ça avec des codes couleurs. Donc si vous tapez dans Décodex l'adresse d'un site internet ou d'un média internet, il va y avoir un code couleur qui va s'afficher avec des appréciations. Donc vert, ça veut dire c'est un média fiable, pas de problème, c'est un média mainstream, tout va bien. Rouge, c'est pas fiable du tout. Ce site diffuse régulièrement de fausses informations ou des articles trompeurs, restez vigilants. Et il y a entre les deux, il y a orange. Donc c'est pas vraiment fiable, ne cite pas ses sources, ne vérifie pas les infos. Donc Le Monde, je vous le rappelle, c'est Berger, Niel, Pigas, donc 3 milliardaires. Le Monde, c'est aussi 4 colonnes en 2002 qui annoncent que les Raéliens sont parvenus au clonage humain. C'est les mensonges relayés par Le Monde pendant la guerre du Kosovo.
Que Juppé va gagner la primaire.
Que Juppé va devenir. Oui, de toute façon, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'en fait, on n'a pas le temps, on est un peu à la bourre. Et donc, suite à ce truc que tout le monde, enfin, tous les gens un peu sensés critiquent parce que c'est du grand n'importe quoi, Olivier Berruyer, donc ancien journaliste du Monde, ayant créé son propre blog Les Crises, labellisé rouge par Décodex puis orange suite à une polémique apparue dans plusieurs médias, s'est exprimé en disant que c'était une opération à mi-chemin entre le macartisme et le ministère de la vérité d'Orwell qui vise à poser un label non plus à l'information dans la chasse actuelle aux fake news, mais à l'ensemble des sites et des sources en ligne. Parce que selon des collègues, il a été classé rouge puisqu'il partagerait des théories complotistes sur l'affaire ukrainienne. En l'occurrence, Olivier Berruyer a dénoncé la complaisance de l'Union européenne et ses médias quand le Parlement ukrainien a élu Andriy Paroubi comme nouveau président du Parlement ukrainien à la majorité des députés. Andriy Paroubi étant le cofondateur du parti néo-nazi ukrainien, il a animé toutes les milices militaires pendant plusieurs années, il s'est occupé du commandement militaire de Maïdan. Cet homme-là a été nommé président du Parlement ukrainien dans un contexte de tension avec la Russie. Et donc, bien entendu, quand on révèle de ce genre de choses, on est clair, on a un peu de borderline, c'est pas bien. Autre média touché par ce décodex, François Ruffin et son fakir ont été classés orange. Donc, sur ces sources incertaines, François Ruffin s'est défendu en disant beaucoup de nos sources sont des ouvriers considérés moins fiables que les éditorialistes laquais du Capital. Face à cette polémique, Samuel Laurent, responsable des décodeurs du Monde, se défend en avançant que le journalisme militant est orienté et donc moins fiable, ne considérant ainsi pas les chiens de garde du pouvoir et du capital comme des militants. Mais peut-on être considéré comme non orienté ou objectif quand on est possédé par des milliardaires ayant tout intérêt à dispenser une propagande bourgeoise et libérale ? Ça, Décodex n'y répond pas.
Bon, ça va être chaud pour la transition, mais revenons à Lyon, qui s'est, en fait, le 11 février, il s'est passé la marche noire pour Théo, Adama et bonne les transition. Autres. Donc c'était un rassemblement fait place du pont de la Guillotière, une manifestation de 150 personnes donc est partie dans le calme. Donc rien de spécial jusqu'à maintenant, Nassé, place Stalingrad, rien de spécial non plus. Par contre le petit plus, le petit point policier, c'est le dispositif de malades, 12 cars de CRS, 20 motards, 8 voitures de la BAC, 4 fourgons de la police nationale, 2 voitures de la brigade. Cynophile, et oui, il y avait les hinches. Et en plus, 2 voitures de la police municipale. Attention, attention, pour combien de manifestants ? À ce stade-là, on n'était plus que 100 manifestants. Donc, nassé pendant 2 heures, l'ambiance était plutôt bon enfant, mais la démesure du dispositif nous rappelle encore et toujours qu'on est dans un état policier, la démocratie mode lyonnaise, ou au sens plus général, à la mode française. Donc voilà.
Bon, on est très en retard, donc on va faire très vite sur le lendemain à Vénissieux où un autre rassemblement contre les violences policières toujours et contre notamment des violences policières ayant eu lieu à Vénissieux même le mercredi précédent, donc pour dénoncer ça et interpeller la ministre qui n'est pas venue, donc elle s'est défilée un peu puisque l'appel était publié sur Rebellion elle et sur flippé. Les réseaux sociaux.
Elle a flippé,
c'est déjà une victoire. Donc ce rassemblement s'est bien passé, il y avait environ 200 personnes, un peu plus même, des militants du centre-ville, des gens du quartier. Ça s'est déplacé en manif paisible et quand même sauvage jusqu'à la mairie où les flics ont fait barrage. Et voilà, ça s'est dispersé sans heurts.
Beaucoup de flics aussi quand même.
Beaucoup de flics, oui, mais ça
c'est habituel.
Voilà, c'est habituel. Et par contre, information un peu de taille, c'est que il y a eu des représailles donc en fin d'après-midi où des policiers sont allés dans un parc, toujours à Vénissieux, et ont balancé des gaz lacrymogènes et ont tiré au flashball, notamment sur quelqu'un de la famille de Mehdi, le jeune qui a été renversé en scooter par la police et qui est mort il y a environ une semaine, 3 semaines. En décembre. Et donc, elle, qui essayait de filmer ses exactions de la police avec son téléphone portable, a reçu un tir de flashball dans la main et a été hospitalisée. Donc voilà.
Comme pour la famille Traoré, ils s'acharnent toujours sur les familles solidaires. On continue alors avec quelque chose particulièrement passionnant, mais qui a bien voulu espionner les boîtes mail de la région Rhône-Alpes, car cette affaire d'espionnage des boîtes mail est sur toutes les lèvres depuis 2 jours au conseil régional à Confluence. Alors, un agent qui appartient au syndicat Sud CT, une collectivité territoriale, a d'abord soupçonné une intrusion en se connectant sur la boîte mail du groupe. Après audit, les recherches montrent que sur une période de 2 mois au moins en 2015, le directeur des services informatiques du CR aurait fait en sorte que toutes les boîtes mail des élus et des agents soient consultables, en gros espionnées. À cette époque, le CR Rhône-Alpes, où il n'y a pas encore l'Auvergne, était présidé par le socialiste Jean-Jacques Kerran. Dans l'alerte de Sud au service informatique, il y a évidemment plusieurs questions. Pour qui, pourquoi, comment, est-ce que c'est sous ordre de la direction du CR, etc. Laurent Wauquiez y répond que sont concernées toutes les boîtes mail des membres du cabinet, des VP, les vice-présidents de tous les élus et de la direction générale, des groupes et des syndicats. Donc les syndicats, les socialos, les socialistes s'en défendent évidemment, mais on sait que ce serait lié notamment au fait qu'un journal satirique local, les Potins d'Angèle, aurait ciblé de nombreux élus du conseil régional et que ce serait sur ces fuites-là qu'il y aurait eu de l'espionnage. En tout cas, on félicite les socialistes pour avoir espionné la quasi-intégralité des boîtes mail du conseil régional sur le mandat précédent. Bravo les socialos.
Pour continuer dans la catégorie des trucs trash... On va continuer un dossier, hélas, qui continue depuis plusieurs semaines, qu'on a pu suivre, on a déjà parlé, sur la question des personnes qui vivent, qui dorment à la rue, là, à Lyon, en ce moment. Et il y a eu encore une affaire tristement pathétique dans la semaine. C'est que c'est passé, en fait, par Jugan, qui est donc derrière la, un parc qui est derrière la gare de la Part-Dieu, où un certain nombre de familles, en fait, après... Enfin, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont suivi, sinon vous pouvez retourner sur Rébellion, où il y a plusieurs articles qui font bien l'historique de ce qui s'est passé ces dernières semaines, sur la question de l'ouverture et la fermeture des gymnases pour les sans-abri à Lyon, à cause de la question du froid notamment. Et donc voilà, donc c'est le problème, c'est que ces gymnases ont été fermés dès que la température est redevenue positive, donc toutes les personnes qui étaient présentes ont dû retourner à la rue, et donc ces personnes qui ont eu à une époque été dans ce parc, bah, ils sont retournés tout simplement. Et voilà, sauf que ça ne plaît évidemment absolument pas à la mairie, qui considère que ce campement est la porte d'entrée pour l'immigration, et notamment pour ils dénoncent une mafia serbe qui utiliserait ça comme porte d'entrée pour les trafics. Et ce qui s'est passé, c'est donc pour pouvoir faire dégager ce campement, ils ont utilisé cette politique qui on commence déjà à bien connaître à Lyon, qui consiste en fait à inventer des faux travaux pour en fait bloquer le périmètre pendant un certain temps. Donc comme à une époque où ils nous avaient fait ça à la Guillotière pour éviter que le marché reste, en fait ils avaient inventé des faux travaux, bah là ils ont fait à peu près la même chose. En fait ils ont expliqué qu'il fallait, alors qu'ils étaient installés sous des arbres, ils ont expliqué qu'il fallait refaire toute la pelouse, c'était absolument urgent, qu'il fallait profiter de la période hivernale, donc ils ont tout bloqué et ont mis en place en fait des barrières pour laisser reposer le gazon pendant 4 mois. Donc bah voilà, donc ce campement qui était bien là et qui rendait bien, bon, c'était absolument horrible comme condition, mais qui était vital. Et ben ça, ces gens-là ont dû partir et s'égayer un peu partout dans tout Lyon.
Encore un.
Ouais, on va passer au dossier avec François Sagan et ses invités.
Du coup, comme on le disait en intro, on va parler du collectif des étudiants étrangers sans papier et solidaires de Lyon. Et en attendant mes invités, on écoute La chasse est ouverte de MAP.
Le gibier sans papier a du souci à se faire. Le chasseur assermenté renifle les tanières. Le ministère de la chasse aux immigrés a ordonné une battue brutale et sans pitié. Ils ont lâché les chiens, les matraques et les tasers. Opération Gestapo, nettoyage au Karcher. La nouvelle circulaire de la haine est très claire. C'est tout le monde dehors à coups de grosses rangers. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Monsieur le président a dit à monsieur le ministre de dire à monsieur le préfet de faire péter les registres, de remplir les charters, les consignes sont très claires. À la porte les métèques, on veut que des pots clairs, les ordres sont d'user de méthodes efficaces. Appel à délation pour expulser les sales races. Paris a des faux airs d'un Vichy sous occupation, réminiscence d'une époque.
Le fantôme s'appelle Papon.
La milice républicaine est passée à l'action. Elle a raflé les mômes dans les cours de récréation. Elle traque jusque dans les églises et les mosquées, dans les usines, les gares et les universités. Cours mon frère, cours ma sœur. Cours pour être libre, moi je sais que tu as peur. Cours dans l'indifférence du peuple de France, ils ont voté. Et maintenant silence. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Un mouton. T'as tes papiers ?
Non. Dommage.
Entendez-vous, chers citoyens, le corps de chasse qui sonne. Française, français, entendez-vous l'hymne guerrier qui résonne. Au nom de la patrie, des droits de l'homme, je décrète qu'en ce pays, la chasse à l'homme est désormais ouverte. Du 1er janvier au 31 décembre, sachez chasser comme bon vous semble. Chasse en pleine, chasse à court, chasse à la passée. Chasse et croisée, les chasseurs à court, ça y est, la meute est lancée. Petit lapin, sors de ton terrier, vers ton pays lointain, on doit te faire retourner. Peu importe, c'est là-bas, c'est la mort qui t'attend, six pieds sous terre. Hors la loi, hors de la loin des yeux, loin du cœur, cœur de pierre. Cours, cours, tu peux toujours courir. Cours, cours,
toi devoir partir. Cours, cours, on te suit à la trace. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, faut que tu penses que c'est perdu d'avance. Va falloir que tu y passes. Le capitaine de chasse, le garde-chasse, le lieutenant de chasse, tous sont sur ta piste, t'es sûr. Tu risques d'y laisser des plumes. Il y a un contrat sur ta tête, petit bonhomme. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
Un enfant vient de naître,
la chasse est ouverte.
Une femme se jette par la fenêtre,
la chasse est ouverte.
C'est la sortie de l'école,
la chasse est ouverte.
Au berceau, à l'hôpital,
la chasse est ouverte.
Aux armes, citoyens,
la chasse est ouverte.
Du 1er au 31,
la chasse est ouverte.
Tant l'hiver, pas tant été,
la chasse est ouverte.
Samedi, dimanche et jours fériés,
la chasse est ouverte.
Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
On vient d'écouter MAP, la chasse est ouverte, donc c'était le ministère des Affaires Populaires. Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, dans le Canu Info du lundi soir. Et on enchaîne avec le collectif des étudiants étrangers de Lyon.
Alors, petite précision, c'est une chanson qui a été écrite en 2009, mais qui fait écho à l'objectif de 25 000 reconduites à la frontière qui avait été fixé par Sarko au moment où il était ministre de l'Intérieur en 2006. Alors, aujourd'hui, cet objectif, il est atteint tous les ans et les socialistes sont loin de déroger à la règle. C'est d'ailleurs eux en fait qui détiennent le record des reconduites forcées, puisqu'il y a en fait trois types de reconduites, l'éloignement volontaire, l'éloignement aidé et l'éloignement forcé. Et en 2014, Bernard Cazeneuve se félicitait de faire mieux que la droite à ce propos, puisque 15 161 personnes étaient contraintes au départ. Ça veut dire donc placer de force dans un avion pour les renvoyer dans un pays dans lequel ils ne peuvent ou veulent pas vivre. Et Bernard Cazeneuve se félicitait de ce triste record. Donc du coup, nous, à l'heure où la xénophobie s'installe tranquillement dans le programme des présidentielles, on a voulu un peu revenir sur les luttes des sans-papiers. Et à Lyon, il y a un collectif qui est particulièrement actif sur le sujet. C'est le collectif des étudiants étrangers sans-papiers et solidaires de Lyon. Et pour ce dossier, on a avec nous en plateau Mohamed et Mouktar qui font partie du collectif. Bonjour.
Bonjour.
Donc, pour contextualiser un peu, le collectif il a été créé il y a un peu plus d'un an et demi sur Lyon. Il compte à peu près 300 membres, vous m'arrêtez si je me trompe. Et donc voilà, le collectif lutte un peu pour l'inscription des sans-papiers à la fac et des demandeurs d'asile, mais aussi pour la régularisation de toutes et toutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Mouktar et Mohamed ?
Ouais, moi c'est Ben Mohamed Mouktar. Je suis guinéen de nationalité et là je suis à la fac, je fais sciences éco L1 et du coup moi je suis venu en France en novembre 2015, je suis arrivé en novembre 2015, ça fait à peu près un an et quelques, un an deux mois à peu près, et du coup j'étais demandé l'asile et je viens d'avoir mon statut, ça fait à peu près deux mois.
Et ben félicitations,
ouais, bravo.
Déjà.
Merci.
Bravo.
Et toi, Mohamed ?
Bonsoir. Moi, je m'appelle Mohamed. Je suis étudiant à l'Université Lyon 2 en licence des sciences politiques. Et je suis venu en France en 2014. Et je suis venu par le système Campus France. Mais du coup, quand j'ai appris la situation des étudiants sans papier et demandeurs d'asile, je me suis engagé aux côtés du collectif pour les soutenir et apporter mon soutien et ma solidarité aux étudiants sans papier, mais aussi aux demandeurs d'asile.
Alors du coup, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différentes luttes qui ont été menées dans le collectif, notamment pour les inscriptions ?
Oui. En fait, en 2015, moi j'ai rencontré un ami à l'Université de Lyon 2 et il m'a parlé en fait de créer un collectif pour défendre les étudiants sans papier et les demandeurs d'asile, mais aussi les étudiants étrangers d'une manière générale. Et du coup, on était quatre au départ, on a créé le collectif en 2015, septembre 2015. L'idée c'était de pouvoir... lutter pour inscrire les étudiants sans papier à l'université parce qu'auparavant, ils n'avaient pas droit. Et du coup, on a commencé les luttes en septembre et on a mené différentes batailles à l'université, notamment des manifestations qu'on a fait à l'université. Même des fois, on a été obligé de bloquer l'université pour montrer que, en fait, les étudiants, quels que soient nos statuts, on a le droit au savoir, on a le droit de construire un avenir, mais aussi de s'inscrire à l'université, de suivre une formation pour construire son avenir professionnel. Et voilà, on a mené ces manifestations au sein de l'université. Même récemment, on a occupé la présidence de l'université Lyon 2. On a passé deux nuits à Lyon 2 jusqu'à ce que nos camarades soient inscrits à l'université. Et du coup, il reste beaucoup de luttes à mener. Et voilà, on est là, on lutte, on est en solidarité. Notamment des étudiants français qui sont là pour nous soutenir, et voilà.
Et du coup, effectivement, hein, c'est des luttes qui ont été victorieuses, puisque maintenant, il y a une procédure qui permet aux étudiants sans papier, enfin, quelle que soit leur situation administrative, de s'inscrire à l'université. On écoute rapidement, justement, un petit son de la manif qui avait été organisée à l'intérieur de la fac et qui avait réuni plus de 300 étudiants, un peu spontanément, pour défendre le droit de tous à étudier en France. Et voilà, donc là c'était la mobilisation l'an dernier à l'université, mais il y a aussi tout un tas d'autres mobilisations qui s'organisent autour du collectif, notamment pour soutenir les camarades dans leur démarche administrative pour la régularisation ou quand ils se font arrêter par la police, ce qui arrive malheureusement bien trop souvent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Mokhtar ?
Ouais, les camarades, vous savez déjà, le nom l'indique, c'est les sans-papiers ou demandeurs d'asile. Ils s'inscrivent à la fac, mais ils ont une carte d'étudiants, mais ils n'ont pas de titre de séjour, ils sont là sans papier, voilà quoi. C'est pourquoi le collectif mène une lutte par rapport à ça aussi, aider ses camarades qui sont déjà inscrits à la fac afin d'avoir un titre de séjour, parce que c'est notre slogan, une carte étudiante est égale à un titre de séjour. Et du coup, il y a beaucoup de ses camarades qui se font interpeller. Même s'ils présentent leur carte étudiante, la PAF dit que ce n'est pas quelque chose qui est valable, il faut un titre de séjour. Du coup, quand ils se font interpeller, ils sont directement amenés à la PAF. Et du coup, nous, on reçoit des messages des camarades le plus souvent qui disent que « Ah, moi j'ai été arrêté par la PAF, soit à la Guillotière, ou soit à Perrache. »
Dans les gares, très souvent.
Très souvent. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se mobilise, on vient devant la PAF, on essaye de crier, comme vous l'avez entendu tout de suite, solidarité. Et on crie jusqu'à ce que nos camarades soient libérés. Et du coup, c'est pas ça seulement, il y a beaucoup de choses qu'on fait aussi, parce que on
alors,
a
juste
également...
je précise, la PAF, c'est la police de l'air aux frontières, voilà, ouais. La police des frontières, qui effectivement sévit beaucoup dans les gares et qui interpelle et contrôle l'identité en général au faciès des gens dont ils soupçonnent qu'ils pourraient être en séjour irrégulier en France. En général, c'est quand même une bonne grosse bande de raclures.
Leur rôle est de contrôler les sans-papiers, les placer
au centre de rétention.
De rétention.
Ouais. Et aussi, voilà, par exemple, le centre de rétention, il y avait l'histoire de...
de Rabi, de Karim et de Riyad, tous récemment, et on avait communiqué là-dessus. Et du coup, on essaye de venir en soutien, notamment au niveau des tribunaux, même au centre de rétention, parce que Rabi, on était parti jusqu'au centre de rétention pour aller s'enquérir de ses nouvelles, lui demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il veut, tout ça, quoi. Et du coup, au niveau des tribunaux, on vient en soutien, parce que c'est quelque chose qui aide beaucoup pour la contestation des OQTF, des URTF actuellement qu'on vient de mettre en vigueur. C'est l'interdiction de retour sur le territoire français. Et il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire, mais la lutte, vraiment, elle doit continuer parce que c'est quelque chose qui est énorme et c'est quelque chose qui demande vraiment, vraiment, vraiment des soutiens. C'est pourquoi on va demander à beaucoup de personnes qui sont intéressées par les sans-papiers, les demandeurs d'asile, de venir en soutien, quoi.
En fait, je voulais rajouter parce que aujourd'hui même, en fait, il y a un camarade qui s'est fait interpeller à la gare des Perrache, si je me rappelle.
Non, Zamassé, à Zamassé. Il quittait Vienne, il venait à Zamassé pour prendre sa carte étudiante à la fac. Il s'est fait contrôler dans le train, du coup, par la PAF. Maintenant, s'il monte même dans les trains pour contrôler les gens, ça devient compliqué, quoi. Il s'est fait contrôler, il n'avait pas de papier, et directement, ils l'ont envoyé à la PAF, et on vient de le libérer, mais par
la mobilisation.
Ouais, mais il avait reçu une OQTF déjà.
Voilà. L'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français, hein, ouais, qui maintenant, depuis la nouvelle réforme, est souvent accompagnée d'une IRTF qui interdit de revenir, ouais, sur le territoire.
Il avait un billet, il m'a montré même le billet,
ouais. Ouais, mais ils ont malheureusement le droit de faire ça, la PAF, ils le font régulièrement, donc c'est aussi pour ça que les transports en commun, faut aussi peut-être le dire, hein, c'est que il faut plutôt éviter quand on n'a pas de papier.
Les gares en tout cas.
Surtout les gares, ouais, PAF, l'intégralité des transports en commun.
Et du coup, voilà, c'est vrai que cette question de mobilisation collective, elle est essentielle puisqu'elle permet souvent de faire sortir, de mettre un peu la pression sur la PAF ou les juges au moment où ils prennent des décisions qui vont mener des gens, des fois, à des situations absolument dramatiques, quoi. Donc, montrer qu'on est nombreux et solidaires, c'est toujours important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment le collectif s'organise ? C'est un truc un peu inédit en France. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres exemples.
Ah, justement, moi, là-dessus, je voulais quand même vous tirer mon chapeau, parce que dans pas mal de facs, la majorité des facs de France, les sans-papiers ne peuvent pas être inscrits, tout simplement. Mmh. Les directions d'université considèrent et disent qu'elles n'ont pas le droit de le faire. Et en fait, si, elles ont le droit de le faire. C'est juste de l'administratif. Elles ont la possibilité de le faire, et généralement, d'ailleurs, être inscrit à la fac en tant que sans-papier peut permettre déjà de créer de la solidarité, des liens sociaux, et pourquoi pas, après, obtenir des papiers un peu plus facilement. Et donc, ce que vous faites là-dessus est particulièrement conséquent et pas anodin à l'échelle nationale.
Ok, pour rajouter un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, dans tous les l'université de Lyon, en fait, c'est à Lyon 2 qu'on a réussi à inscrire pas mal des étudiants, mais aussi cette année à Lyon 1. Mais on a essayé à Lyon 3, mais le jour où je suis parti là-bas avec un camarade, c'est la sécurité qui nous ont ramenés jusqu'à la porte. Ils nous ont dit, vous n'avez rien à faire ici.
On rompt pas avec les traditions à Lyon. Lyon 3, toujours une fac de facho.
Ouais, c'est vrai ce qu'il dit, et c'est pourquoi c'est que Seb vient de dire tout de suite. Du coup, pour inscrire les sans-papiers à la fac, c'est quelque chose de compliqué, quoi. On était tout récemment à Caen pour une rencontre concernant les migrants et les sans-papiers. Du coup, c'était vraiment, quand on a exposé le cas de la fac, dire que nous, on est parvenu à inscrire des étudiants sans-papiers à la fac, ils se demandaient est-ce que c'est possible, parce qu'eux, ils sont passés partout, mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas pu, tu vois. Et ils nous ont demandé même de leur faire une formation par rapport à ça, et parce que c'était quelque chose, un boulot énorme. Eux, ils sont vraiment émus ils sont vraiment émus de voir des trucs comme ça. C'est quelque chose qui les intéresse beaucoup, quoi.
Mais ça tient aussi aux mobilisations, aux nombreuses mobilisations, aux occupations qu'il y a eu sur la fac. C'est le rapport de force qui a permis de créer ça aussi.
Ouais, également, c'est le rapport de force, ouais.
Et du coup, voilà, je me disais sur l'organisation du collectif, comment ça se passe en interne un peu pour les réunions, tout ça, comment vous vous organisez?
Alors, en ce qui concerne l'organisation, il faut savoir qu'en fait, on n'est pas des spécialistes, mais il y a des étudiants français qui sont là, des étudiants étrangers sans papier, des étudiants avec titre de séjour et demandeurs d'asile. Et du coup, nous, on est là, on essaye que chacun et chacune puisse participer, donner son avis. Et du coup, on avait créé différentes commissions au collectif. Il y avait une commission juridique. En fait, c'est eux qui travaillaient pour constituer les dossiers pour la demande de régularisation à la préfecture. On avait une commission inscription dont j'ai travaillé pendant une année. Et du coup, c'est cette commission en fait qui essaye de préparer les étudiants, préparer leurs dossiers pour aller demander les inscriptions, mais aussi de négocier avec l'administration universitaire. Il y avait aussi une commission événement, parce que c'est vrai, on est là, mais aussi des fois on organise un peu des soirées pour voilà, un moment de partager, des moments ensemble et tout, mais aussi pour récolter un petit peu de sous. Il y avait une commission organisation, il était là juste pour essayer d'organiser les réunions et que voilà, les réunions soient bien organisées et que la discussion se déroule dans les meilleures conditions.
Je voudrais rajouter un peu par rapport à ça. Les sans-papiers en France, que ce soit en France ou partout dans le monde, c'est des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer du tout. Et quand ils viennent au sein du collectif, ils disent ce qu'ils ont au fond d'eux, au fond du cœur, parce qu'ils n'ont pas où dire ça, quoi. Et quand ils viennent, nous on leur donne la parole de parler. Par exemple, moi, quand je suis venu, c'était le cas. Ils m'ont donné la parole de dire, de parler, d'essayer de m'exprimer, de montrer vraiment ce que j'ai au fond du cœur. Et également, le collectif, c'est un lieu où les gens se sentent à l'aise. C'est comme s'ils ont quitté leur famille et ils viennent là, ils retrouvent une autre famille, quoi. Parce qu'en France, quand tu viens, t'as personne, tu dors dans la rue, et tu rencontres des gens comme ça qui t'accueillent, qui te disent vraiment viens. Parfois, il y a eux, il y a ces gens même qui disent viens, reste chez moi une semaine, deux semaines, tu vois. Et vraiment, c'est le social, ça existe au sein du collectif, tu vois. C'est un lieu également d'intégration. Ça aide aux sans-papiers, aux demandeurs d'asile qui viennent à s'intégrer bien en France. Et c'est quelque chose, ces points-là que je voulais rajouter un peu, quoi.
Oui, du coup, voilà, c'est un espace d'auto-organisation où chacun peut saisir des problématiques de toutes et tous. Alors, du coup, pour les prochaines échéances un petit peu du collectif, il y aura un meeting le 8 mars. Pour les gens qui voudraient davantage d'infos, il y a la page Facebook du collectif. Donc, c'est Collectif des étudiants étrangers de Lyon sans papiers solidaires. Et également, un numéro de téléphone. Vous pouvez recevoir les infos par texto. Le numéro, c'est 07 87 20 41 37.
Encore
07 87 20 41 37. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux auditeurs, peut-être ?
Oui, moi je dirais à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui de venir vraiment aider le collectif, aider les sans-papiers, les demandeurs d'asile, parce que c'est des gens qui ont quitté leur pays, qui ne sont pas venus seulement ici pour comme ça. C'est des gens qui ont été contraints de quitter leur pays parce qu'ils ont eu des problèmes dans leur pays, des problèmes de persécution, ils ont quitté sa famille comme ça, quitté son pays, ses amis, tout ce que tu avais, tu le laisses derrière toi, tu viens dans un pays où tu ne connais personne, tu n'as rien, tu n'es pas habitué. Ça veut dire que vraiment, c'est quelque chose qui ne va pas derrière toi. Alors moi, je demande à ces gens qui nous écoutent aujourd'hui de venir en soutien à ces gens-là parce qu'ils en ont besoin, quoi. Et du coup, on les appelle aussi à venir également le meeting dont tu viens de parler tout de suite. On aura des gens qui vont expliquer leurs cas, qui vont expliquer des cas vraiment qui, eux-mêmes, quand ils vont écouter, ils sauront que c'est quelque chose qui est vraiment, ça donne de l'émotion.
Et ce sera plus le 8 mars, ce sera plus intéressant que les meetings des candidats au présidentiel. Et face à toutes les attaques passées et à venir contre les migrants dans l'ensemble, effectivement, la solidarité est probablement notre seule l'arme. Merci beaucoup Mokhtar et Mohamed. Merci.
Bravo, vous montrez la voie.
Merci.
C'est
nous qui vous remercions.
On va finir avec le traditionnel agenda. Exactement. Il nous reste deux minutes.
Très très vite. Alors, samedi 18 février à partir de 14h30, un meeting contre le racisme et les violences policières, la HOGRA, la chasse aux migrants et migrantes. Ce meeting aura lieu déjà organisé par le collectif du 19 mars à Paris et le comité lyonnais. Aura lieu donc à Vaux-en-Velin, à la salle Victor Jara, rue Jean Le Cyr, bus C3 à Rennes-les-Cyr. Et il y aura plein d'intervenants très intéressants. On est très à la bourre, on continue avec...
Donc il y aura une conférence à la librairie Terre des Livres, rue de Marseille, sur une étude politique et sociologique qui consiste à déterminer comment la prison façonne la vie des Palestiniens.
Avant de partir ce week-end, demain, il y a le préfet qui est convoqué par la justice administrative à 14h30 au tribunal administratif pour rendre compte sur sa gestion des SDF. Donc si vous voulez aller le soutenir ou l'enfoncer, vous pouvez
aussi l'enfoncer. Lui demander de rendre compte de sa politique vis-à-vis des migrants.
Et un festival, Buget ses tripes hiver, session 8, samedi 18 février à Hauteville-Lompe.
Voilà, juste pour dire aussi qu'il y a l'appel des Bures à cuire pour soutenir Bure et Sazad du 14 au 18 février. On demande à déclarer notre flamme à l'Andra, comme vous voulez, dans n'importe quelle bonne façon pour vous.
Voilà, c'était le Ladi Canu Info, à la semaine prochaine.
Si vous le voulez bien.
Si vous voulez bien.
Non, déconne.